Bonsoir à toutes et à tous, nous poursuivons les émissions sur le mois de l'inclusion avec une émission consacrée à la scolarité. Aujourd'hui à Bac FM, je serai en compagnie d'Alexandre Michon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint au DAZEN, directeur donc académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre. Vous êtes aussi en charge du premier degré et de l'ASH, adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés. J'ai pas fait d'erreur, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et nous sommes aussi en compagnie de Valérie Rochandre. Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie, vous êtes coordinatrice ULIS, donc ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire.
C'est ça.
Beaucoup d'acronymes, dis donc, ce soir. Donc merci à vous deux d'être venus. Donc nous allons faire une émission consacrée à la scolarité et à l'inclusion dans ce milieu scolaire. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour aider les enfants en situation de handicap dans la Nièvre?
Alors, beaucoup de choses. On va essayer d'être concis, mais il est vrai qu'il y a de nombreux dispositifs qui peuvent aider donc les élèves en situation de handicap. Il y a tout d'abord donc des partenariats avec le monde médico-social, hein, notamment donc des établissements qu'on appelle des IME, et qui peuvent permettre du coup d'accompagner ces élèves. Et on met à disposition, donc l'éducation nationale met à disposition des enseignants pour chacun de ces établissements médico-sociaux, pour justement permettre de les accompagner dans leur scolarité. Sachant que pour tous ces établissements médico-sociaux, on leur demande vraiment de mettre en place des unités externalisées, donc des classes qui vont dans les écoles, dans les collèges, voire dans des lycées, pour justement permettre à ces élèves de ne pas être écartés du milieu scolaire, bien au contraire, et d'être pleinement associés à toute la vie de nos établissements scolaires. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie médico-sociale, mais on a aussi des ULIS, hein, donc, et dont Valérie va pouvoir parler. Et ces ULIS, donc unité localisée pour l'inclusion scolaire, permettre là aussi à nos élèves, que ce soit des élèves à troubles des fonctions cognitives, fonctions motrices ou des difficultés sensorielles, d'être aussi accueillis là directement au sein des établissements. Et donc on met bien sûr un enseignant pour chaque ULIS, donc on les appelle des coordonnateurs. Et donc cette idée de coordination, de coordination, elle s'explique par le fait de justement de favoriser des inclusions. Voilà. Et on associe également des AESH collectives à chaque ULIS. Voilà. Mais je laisserai la parole à Valérie pour cela. Et ensuite, on a aussi toute une partie des élèves en situation de handicap qui sont directement dans nos écoles et sans être scolarisés ni en ULIS ni en établissements médico-sociaux. Et là, ça peut être, ils peuvent être accompagnés donc par une AESH ou pas. Voilà. Ça, c'est vraiment de manière, on va dire, assez générale. Et après, il y a plein d'autres dispositifs qui existent et pour leur permettre d'être scolarisés au mieux. On a notamment nos professeurs ressources, hein, donc professeurs ressources pour les TSA, les troubles
du spectre autistique.
Les troubles du spectre autistique, oui. Et donc professeurs ressources TND, donc les troubles neurodéveloppementaux. Voilà, qui permettent là aussi, hein, d'apporter donc des réponses directement au sein des classes. Directement aux élèves et pour aider aussi les enseignants à adapter directement. Sachant que la personne qui est vraiment aussi très importante, hein, dans le suivi des élèves en situation de handicap, et j'aurais même pu commencer par eux, c'est bien sûr les enseignants référents. Voilà. On a donc sur tout le territoire 11 enseignants référents qui suivent directement le projet de chaque élève en situation de handicap. Voilà, donc tout élève notifié a au moins une fois dans l'année une réunion qu'on appelle une ESS, qui est coordonnée par l'enseignant référent et qui permet de réajuster le projet de l'élève. Voilà.
Et est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'élèves sont concernés par un handicap et qui sont aujourd'hui scolarisés dans la Nièvre?
Globalement, 1700.
Okay.
Voilà. Globalement, 1700, dont 300 en établissements médico-sociaux. Voilà, donc 1400 qui sont scolarisés dans le milieu dit ordinaire.
Et toutes les aides que vous avez là citées, elles sont disponibles pour un certain niveau de scolarité, par exemple collège, lycée, ou vraiment ça peut s'appliquer dès la maternelle?
Ça peut s'appliquer dès la maternelle. Voilà, dès lors que l'enfant est notifié, l'école se doit d'accompagner au mieux la scolarité de cet élève.
Et est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, enfin même par rapport à tout ce qui est mis en place, est-ce qu'on constate encore des élèves qui ne peuvent pas avoir accès à la scolarité par faute de moyens, de, je sais pas, de main-d'œuvre, de personnel? Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore, malheureusement?
Oui, ça peut effectivement arriver dans des cas très complexes. Et là, on n'est pas tout seul, l'Éducation nationale, on a des partenaires, hein, je pense notamment à l'ARS, je pense à la MDPH également, on se met autour de la table sur des réunions qu'on appelle des réunions pour les élèves sans solution. Alors, il n'y a pas jamais aucune solution, hein, mais c'est le nom qu'on a donné à cette réunion et ça permet vraiment de voir tout ce qui peut être mis en place, à la fois sur les aspects pédagogiques, mais aussi sur les aspects de soins et de partenariat. Donc, ça concerne à peu près 20 élèves et on essaye de vraiment de faire un suivi très précis pour essayer de trouver des solutions dès que possible.
D'ailleurs, en parlant de solutions, depuis la rentrée, le département dispose d'un dispositif qui s'appelle le PAS, le pôle d'appui à la scolarité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous dire un peu de quoi il s'agit?
Oui, tout à fait. Alors, donc les PAS, hein, donc pôle d'appui à la scolarité, ont été mis en place là, dès la rentrée de septembre. C'est un dispositif assez nouveau, hein, puisqu'il a été mis en place que depuis l'an dernier dans 4 départements préfigurateurs, hein, dont la Côte d'Or. Donc nous sommes beaucoup appuyés aussi sur l'expérience de la Côte d'Or pour mettre cela en place dans la Nièvre. L'idée, c'est un binôme, un éducateur spécialisé et un enseignant spécialisé le plus souvent. Et donc ce binôme, le rôle, c'est d'aller dans les classes, aller voir donc les élèves en difficulté, de pouvoir proposer des adaptations au plus près des besoins. Voilà. Il y a une équipe qui est en appui aussi, qu'on appelle l'EMAS, et qui est composée de thérapeutes, donc notamment ergothérapeutes, neuropsychologues, et qui peuvent permettre d'amener un éclairage complémentaire quand on a besoin de différencier encore un peu plus. Voilà. Donc il y a 8 PAS dans la Nièvre, donc on a essayé vraiment de quadriller tout le territoire, et l'idée encore une fois, hein, c'est cette alliance avec le médico-social, et donc le regard de l'éducateur spécialisé dans nos écoles est vraiment bénéfique. Ça permet aussi de croiser les regards, d'apporter d'autres solutions, de travailler aussi avec les parents, hein, parce que bien sûr, il n'est pas question de travailler sans les parents. Pour l'instant, ces passes ont été mises en place, on a commencé sur la communication, ils se font connaître, hein, mais il y a déjà des premières saisines qui sont apparues, donc c'est un dispositif qui va rapidement tourner pleinement.
Alors si je peux me permettre, il me semble que ces passes ne sont pas pour des élèves en situation de handicap, en tout cas ils n'ont pas encore de reconnaissance de la MDPH. Donc c'est un complément, on va dire, à la scolarisation des élèves en situation de handicap. C'est pour des élèves qui ne sont pas encore, ou qui peut-être ne sont pas concernés par une situation de handicap, mais ils font partie de ce qu'on appelle les élèves à besoins particuliers.
Tout à fait. Effectivement, notre cible pour les PAS, c'est plutôt les élèves qui ne sont pas notifiés, dans l'idée de se dire qu'on va déjà essayer de tout faire en classe pour éviter d'arriver jusqu'au dossier MDPH. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On tente des adaptations, on propose des différenciations pédagogiques, pour justement être en classe. Voilà. La cible globalement de la Côte d'Or, hein, ce qui est pour nous pour l'instant, on s'appuie aussi sur leurs propres indicateurs, et eux, c'est à peu près 95% des saisines sur lesquelles ils ont été sollicités. Donc 95% des élèves n'étaient pas notifiés. Donc par contre, le PAS peut également intervenir, donc à la marge, hein, à peine 5% par exemple pour la Côte d'Or, sur des élèves notifiés qui par exemple sont en attente d'une place en établissement médico-social. Là, à ce moment-là, le PAS peut être intéressant, puisqu'il va, alors il ne peut pas pallier, hein, une prise en charge médico-sociale pleine, mais en tout cas peut permettre à ce que ce temps d'attente puisse se faire de manière un peu plus, un petit peu plus bénéfique.
Ouais, l'idée, c'est de repérer, dites-moi si je me trompe, mais c'est de repérer au plus tôt, en fait, si jamais il y a un souci, pour aider directement l'élève avec des solutions plus concrètes. D'ailleurs, de quelles aides il pourrait bénéficier en particulier? Est-ce que c'est des choses plus classiques, je ne sais pas, orthophonistes, ce genre de choses?
Alors, on le sait, dans la Nièvre, on a aussi des difficultés, hein, à avoir l'intégralité de tous les métiers, thérapeutiques. Donc le PAS ne va pas pallier à tout cela. Hein. Il ne va pas pouvoir accélérer des bilans, des choses comme ça, ou des prises en charge. Mais par contre, ce que l'on peut proposer, c'est du matériel pédagogique adapté. Voilà ce qu'on appelle le MADAP. On aime bien les sigles. Hein, vous comprenez. Là, à ce moment-là, grâce à l'appui de l'ergothérapeute qui est dans les masses, on a un budget spécifique et on va pouvoir tester auprès de l'élève du matériel. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une souris scanner, ça peut être toutes sortes de matériel. Et là, c'est du concret. Voilà, c'est une aide spécifique avec l'aide de l'ergothérapeute, voilà, par exemple.
Et est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui sont encore à prévoir ? Pour l'instant, on essaye vraiment de tester, voir comment le pass fonctionne. Et après, on verra si effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter, compléter.
Oui, oui, tout à fait. Alors après, si des nouveaux dispositifs apparaissent, généralement, la Nièvre, on est plutôt réactif. Hein, c'est-à-dire qu'on a été un des seuls, enfin pour l'instant, on est le seul département en France à avoir une ULIS lycée TSA en lycée pro. Avec internat, donc c'est une particularité. On n'hésite pas dans la Nièvre quand même à tester. On a été un des premiers de l'académie à se doter de professeurs ressources à la fois TSA et TND, d'avoir vraiment les deux. On a été voilà, dès qu'un dispositif apparaît, par exemple les PASS également, dès qu'ils sont apparus, on a essayé de les mettre en place dès la rentrée de septembre. Donc encore une fois, si des dispositifs apparaissent et qu'ils peuvent aider nos élèves, on va tout faire pour les mettre en œuvre de manière rapide.
Vous avez parlé d'ULIS. Valérie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, vous, ce que vous faites au quotidien, justement, pour aider ces jeunes en situation de handicap ?
Alors oui, donc moi, je coordonne l'ULIS lycée. Donc je travaille sur les trois lycées généraux de Nevers, donc sur Jules Renard, Raoul Follereau et Alain Collat. Donc Alexandre soulignait le côté un peu novateur du département de la Nièvre. Et cette ULIS lycée général, c'est la seule en France. Voilà, il y a souvent des ULIS en lycée professionnel, mais il n'y en a pas en lycée général, et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc on est dans la Nièvre, on a quand même la chance d'avoir des dispositifs ULIS de l'école primaire jusqu'au lycée général. Enfin voilà, ils peuvent être suivis partout, dans tout le département. Donc l'ULIS, c'est un petit sigle dont on a le secret dans l'éducation nationale, on adore ça. Donc rien à voir avec ni l'Odyssée, ni le péage autoroutier. Donc c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire, donc ça se passe dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Donc le rôle du coordonnateur, c'est de coordonner. Donc si je peux me permettre une petite métaphore mécanique, c'est un petit peu de huiler les rouages, voilà. C'est de faciliter la scolarité de ces élèves qui sont en situation de handicap. Donc les élèves qui sont en ULIS, ils ont une notification MDPH, donc ils sont reconnus comme étant en situation de handicap. Et donc ils sont notifiés pour être en ULIS. Alors ça commence souvent à l'école, ensuite au collège, il y en a à tous les niveaux de la scolarisation. Mais tous les élèves en situation de handicap ne vont pas en ULIS. Donc à l'école primaire, très souvent, c'est une classe à part quand même, où les élèves passent la majeure partie de leur journée et ils ont quelques inclusions dans certaines matières en classe ordinaire. Au collège, c'est encore un fonctionnement comme ça, sachant que les inclusions sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues sur l'emploi du temps. Et en lycée, donc c'est des ULIS qui sont en lycée professionnel ou donc en lycée général pour ma part, où ils sont quasiment scolarisés de façon ordinaire. Et l'ULIS, en fait, est un peu en toile de fond, où ils vont dans le dispositif ULIS quelques heures par semaine. Donc en lycée professionnel, ça peut remplacer des cours. Pour ma part, c'est vraiment un dispositif à part. Moi, mes élèves, ils ont des heures en plus avec moi. Donc ça surcharge un petit peu l'emploi du temps, mais ça leur permet aussi de pouvoir suivre les enseignements ordinaires. Donc l'ULIS en lycée général, elle est vraiment en toile de fond de leur scolarité. Donc moi, mon travail, c'est de faciliter, de permettre l'accessibilité. Donc les élèves viennent 2 à 3 heures avec moi en plus. Donc ça peut être, on peut faire de la remédiation, on peut réexpliquer des exercices qui n'ont pas été réussis, on peut en faire d'autres. On anticipe beaucoup sur ce qui va être travaillé en classe. Donc ça demande du coup de travailler beaucoup avec les enseignants pour savoir ce qu'ils font en classe à ce moment-là. Faut vraiment, le mieux, c'est quand même d'anticiper, de faire ce qu'on appelle du priming. Et du coup, ils ont des cours en plus avec moi. Donc ça me demande de travailler aussi avec les AESH, puisque les élèves, même s'ils ont le dispositif ULIS, ils peuvent avoir une notification MDPH pour une AESH, donc une aide humaine. Donc il y a une aide humaine aussi au sein du dispositif, travailler avec les familles et travailler avec tous les personnels de l'établissement, infirmières, vie scolaire et chef d'établissement évidemment. Donc c'est un petit peu du sur-mesure en fait, vraiment un accompagnement au quotidien, c'est du sur-mesure pour qu'ils puissent y arriver. Et il y a quelques jours, lors d'une ESS, il y a une maman qui se réjouissait de voir qu'il y avait une équipe olympique autour de sa fille. Donc voilà pour le fonctionnement de l'ULIS.
Et vous pouvez suivre jusqu'à combien d'élèves ?
Alors en ULIS lycée, c'est 10 élèves normalement qui sont notifiés. si je peux me permettre, on est parfois un petit peu au-delà, surtout mes collègues en lycée professionnel. Mais moi-même, en ULIS, cette année, en lycée général, j'ai un élève gratuit. Non, après, je dis ça en plaisantant, mais on fait effectivement au mieux pour accueillir tous les élèves qu'on peut aider. Et en collège, il me semble que c'est 12 élèves le maximum. Et en école, je ne sais pas. C'est 12 élèves aussi ?
Oui.
Voilà, donc c'est 12 élèves école, collège et 10 en lycée.
Et aujourd'hui, tous les deux, chacun de votre côté, qu'est-ce que vous constatez par rapport aux besoins des élèves en situation de handicap ? De quoi est-ce qu'ils ont le plus besoin aujourd'hui ?
Alors, moi déjà, j'ai envie d'insister sur... on peut vraiment simplifier. Déjà, ils ont les mêmes besoins que n'importe quel apprenant en termes d'écoute, de patience, d'empathie, de bienveillance, qui ne sont pas des gros mots, de cadre et d'exigence scolaire. Ils ont les mêmes besoins. Quand même, c'est un élément, je pense, sur lequel il faut insister. Ils sont avant tout des élèves et ils n'ont pas trop envie qu'on les considère différemment, et ils ont bien raison. Cependant, dans certaines situations, évidemment, ils nécessitent pour certaines tâches, certaines compétences, des adaptations pédagogiques. Donc, ils ont parfois besoin qu'on leur laisse plus de temps, qu'on leur explique différemment. Donc, ces aménagements, ils sont connus. Alors, moi, je parle surtout de ce que je connais dans le second degré, mais voilà, des tiers-temps ou des aménagements équivalents, alléger la prise de notes, proposer des supports audio. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un besoin d'adaptations pédagogiques qui sont parfois compliquées pour des enseignants, notamment dans le second degré, qu'on déclasse à 35-40 élèves. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas leur demander l'impossible. Donc on est là aussi, nous, enseignants spécialisés, pour les aider à le faire voilà, être un soutien vraiment au quotidien. Après, je pense que ce qu'ils veulent, c'est avant tout être des élèves.
Vous faites le même constat, vous, de votre côté, Alexandre Michon ?
Oui, tout à fait. Effectivement, moi, je rejoins les propos de Valérie. Hein. C'est vrai qu'ils ont surtout besoin, effectivement, d'être élèves, de se sentir vraiment pleinement appartenir à l'école ou à leur établissement dans lequel ils sont. Et je crois que c'est tout le rôle des enseignants et d'éducation nationale au sens large de faire en sorte de favoriser cela. Voilà. Et l'idée aussi de l'adaptation, quand certains enseignants disent « Oh ben, je vais devoir adapter pour différents élèves, j'ai déjà plusieurs niveaux », en fait, on essaye de tendre aussi vers une adaptation plus générale, c'est-à-dire de se dire que ce qui va servir pour certains élèves, ça peut finalement servir pour tous. Donc plutôt que d'adapter, de différencier après coup, l'idée c'est déjà d'entrée de jeu, de donner des textes adaptés ou en adaptant la police d'écriture notamment ou d'autres choses. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est de se dire on peut aussi adapter pour l'ensemble.
Et si aujourd'hui on était dans un monde idéal, qu'on avait toutes les ressources possibles, tous les moyens possibles, qu'est-ce qui pourrait être fait en fait en plus de ce qui est déjà possible aujourd'hui pour justement rendre l'école plus accessible encore à tous et toutes ?
C'est le domaine qui fâche. Non, alors moi, dans un monde idéal, je pense que le système français, voilà, c'est le résultat d'une culture depuis des années. On est quand même dans un système assez élitiste et qui va classer les élèves beaucoup. Donc, on est riche de cette histoire. On en est aussi parfois un peu esclave. Alors, on peut comparer avec d'autres pays européens hein, qui font parfois mieux, parfois pire que nous. Nous, on a un système un petit peu bicéphale entre un vouloir inclure et en même temps, on garde un enseignement spécialisé. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie de faire au mieux avec les deux systèmes. Après, je pense que notre système est quand même compliqué. Quand on voit ne serait-ce qu'une petite émission comme ça, on a bien dû dire 3-4 acronymes et on voit que la démarche, elle est quand même complexe hein, de la détection du handicap. Voilà. Donc moi, je rêverais plutôt d'un système qui soit moins rigide, en fait, qui soit plus souple, qu'on puisse plus facilement passer d'une case à l'autre ou même qu'il n'y ait pas de case. Voilà. Ça, c'est la rigidité du système, elle est quand même là. Il faut la notification, il faut des réunions. Ça, c'est quand même toute la bureaucratie française. Pour ma part, on va me dire que ce n'est pas une question de moyens. Bah, si, pour moi, c'est quand même une question de moyens. Pour qu'un élève soit correctement accompagné, il faut, voilà, quand il y en a besoin d'une aide humaine, bah, voilà, il faut former les aides humaines, les payer correctement. C'est des choses qui sont, évidemment, c'est une question de moyens, c'est une évidence. Moi, je rêverais d'un système, je sais que ça existe dans certains pays nordiques, où les enseignants sont rarement tout seuls dans leur classe, en fait. Ils sont face à un groupe classe, ils sont souvent à deux. Il y a un prof titulaire et un prof adapté, un prof spécialisé. Et ils travaillent en binôme tous les deux et on est souvent beaucoup plus efficace. Alors moi, j'ai eu la chance que quelques professeurs de lycée travaillent en binôme avec moi parce que moi, je suis enseignante de formation, enseignante en histoire-géographie. Je l'ai fait en français et en histoire. Et ça a été super. On a bien fonctionné. On a pu aider tous les élèves. Enfin, voilà. Fonctionnement en binôme, pour moi, ce serait vraiment quelque chose qu'il faudrait creuser. Et puis pour moi, ce qui pourrait changer la donne, c'est vraiment une meilleure connaissance du monde du handicap, en fait, une meilleure compréhension globale, pas seulement à l'école, en fait. Je trouve qu'on se prive beaucoup de talents, de beaucoup de compétences, parce qu'on a des a priori, des idées reçues. On voit encore beaucoup le handicap comme un problème, alors que pour moi, c'est juste une différence. La société, elle n'est pas uniforme et l'école, elle ne doit pas l'être non plus. Pour moi, chacun devrait y avoir sa place pleinement en tant qu'élève, mais après, plus tard, en tant que citoyen. Et je crois que c'est une vision globale, mais on a fait énormément de progrès. Moi, je suis enseignante depuis 20 ans, on a fait énormément de progrès par rapport à l'inclusion. Donc, je suis assez fière quand même dans la Nièvre. On a beaucoup de dispositifs novateurs. Alors, c'est pas parfait, évidemment. Il y a encore des choses à améliorer, mais globalement, je trouve quand même une certaine efficacité. Et je dis pas ça parce qu'il y a Monsieur Michaud en face de moi, hein, mais il me fait les gros yeux. Alors.
Non. Simplement, je serais. Je voudrais être aussi positif hein, dans tout ce qui a été aussi mis en œuvre. C'est vrai que le monde idéal, je ne sais pas s'il existe. En tout cas, il y a effectivement des progrès qui sont là. Pour avoir aussi visité hein, d'autres pays et d'autres modèles inclusifs, je peux aussi dire qu'on n'a pas forcément à rougir. Voilà, parce que nous, on a aussi des choses qu'on a mis en place qui vont aussi continuer et sur lesquelles il y a aussi d'excellents résultats. Donc, voilà. Après, je reste toujours très humble hein, quand on parle de tout ce qui est mis en place, parce que je sais que derrière, et là, il y a certainement des familles qui nous écoutent et qui sont en grande difficulté, parce que vraiment, quand on est des fois confronté à justement au système scolaire et toute sa complexité, et qu'il faut porter des dossiers, MDPH notamment, ou qu'il faut aider son enfant, c'est souvent un parcours du combattant. C'est un mot que j'ai souvent entendu par ces familles. Et donc voilà, je reste humble aussi. Je sais que ça reste un parcours du combattant, encore une fois, et même pour les élèves. Hein. Mais pour autant, voilà, des dispositifs existent, des aides existent. Et je crois que dans ce monde idéal, l'idée déjà, c'est au moins de se dire qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. Et même nous, Éducation nationale, les plus belles réussites, je pense, c'est quand on a su vraiment travailler avec le médico-social, avec des partenaires tels que l'ARS ou le MDPH, et qu'on a réussi à mettre en place des dispositifs commun. Je pense notamment là au PASS. Pour moi, c'est une vraie avancée parce que pour une fois, les éducateurs sont vraiment dans nos établissements. Je crois vraiment à ce partenariat. Et je pense que l'Éducation nationale ne peut pas tout seul. Hein, il y a tout ce travail qui est à faire, notamment avec les familles et avec tous les partenaires qui existent. Donc déjà au moins c'est ça, c'est connaître tous les dispositifs qui existent, se dire qu'on n'est pas tout seul, s'autoriser à poser des questions, à demander, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui peut aider notamment chaque élève.
Eh bien super, merci à vous deux d'être venus pour parler du coup de l'inclusion dans ce milieu scolaire. Et puis vous qui nous écoutez, on vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée et puis un excellent week-end. Et on vous dit à lundi sur BAC FM.